Retour à l'école pour plusieurs primaires, secondaires à compter de la semaine prochaine, le 17 janvier. Ça a été maintenu hier par le gouvernement de François Legault. J'ai vu beaucoup de célébrations de parents. Là, tu te dis, bon, c'est juste des parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants ou c'était réellement un frein à l'apprentissage de leurs enfants d'être à distance, de faire de l'école à distance. J'ai rarement vu dans cette courte période-là autant de critiques sur l'école à distance. Tu sais, la première fois que c'est arrivé, il y en avait des critiques, mais il me semble que c'était plus éparpillé. Là, sais-tu, c'est à cause que c'est tout ce qui traîne se salit, puis là, on est juste plus capable.
Je pense que c'est un peu... comment je te dirais ça? Effectivement, un genre de... On n'aurait pas à revivre ça, puis on le vit encore, puis on se dit... Crime, me semble qu'on a fait ce qu'on pouvait, puis là, on recommence encore dans les vieux patterns de l'an passé. Puis, tu sais.
J'écoutais ce matin nos collègues qui ont des enfants en âge de faire ça. T'en as une aussi, là.
Oui.
Mais, tu sais, Dominique, lui, c'est la réalité de trois en même temps. Qui font des cours différents, qui des fois nuisent aux autres pendant l'apprentissage. C'est le bordel. Martin Thomas qui comptait que ses deux enfants, je dirais pas qu'ils sont en difficulté, mais de son récit, c'était surtout des enfants qui ont pas de facilité, disons. À l'école.
Ils ont des défis, comme beaucoup d'enfants, puis ça dépend tout le temps de l'intensité des choses, mais ils sont pas tout seuls, maudits.
Là, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Des parents qui doivent donner beaucoup d'accompagnement à leurs enfants qui sont pas en mesure de travailler non plus. Mais qu'est-ce que ça va changer au jour le jour d'avoir l'école en présentiel à compter de lundi? On va aller en discuter avec Patrick Giroux, qui est professeur au département des sciences d'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. Monsieur Giroux, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Moi, ça va très bien. Vous?
Ça va très bien.
Oui.
Au début, la première fois qu'on a dû faire de l'école à distance, on n'avait pas vraiment le choix de le faire. Cette fois-ci, on nous a présenté la situation de la même façon aussi. Sauf que à long terme, quand ça perdure une situation comme ça, est-ce que ça peut avoir des impacts sur l'apprentissage, même sur la réussite scolaire?
C'est une question compliquée que vous posez. Je serais tenté de vous donner deux réponses complètement différentes. Si ça perdurait et que ça restait exactement comme ça, je pense que ça aurait des impacts négatifs. Mais plus largement, la situation, on pourrait la corriger, on pourrait l'améliorer. Il faut pas jeter, je veux pas démoniser l'enseignement à distance, parce qu'on peut très bien faire l'enseignement à distance. Sauf que dans le contexte actuel, ben vous avez décrit une partie du contexte, les familles n'ont pas toujours le matériel, ils n'ont pas toujours l'espace, les jeunes sont plusieurs, là les parents ils sont obligés de les aider parce que les jeunes ne sont pas indépendants, ils n'ont pas nécessairement toutes les compétences, etc.
Ben, soyons honnêtes aussi, les parents, dans bien des cas, ils ne peuvent pas travailler à la maison, il faut qu'ils aillent travailler, à un moment donné, c'est une logistique de gardiennage aussi là-dedans. Là.
Ben oui, il y a ça, puis fait que le contexte actuel fait que on n'est pas dans des conditions idéales pour faire de l'enseignement à distance. Donc, puis il y a plein d'autres éléments à ce contexte-là. Même les enseignants, ils ont été formés rapidement, ils ont développé techniquement. Là, aujourd'hui, cette semaine, les enseignants ont beaucoup plus de compétences puis beaucoup plus d'expérience de l'enseignement à distance qu'il y en avait il y a 2 ans. Mm-hmm. On peut parier que ça s'est mieux passé, point de vue apprentissage, cette semaine que la première semaine, par exemple, en mars, quand on est parti en confinement. Mais est-ce que c'était idéal? Non.
Dites-moi, par contre, tu sais, comme on a vécu en milieu de travail, ici en tout cas, là, je parle pour notre cas, on a rarement fait auparavant des rencontres par Zoom ou à distance, puis des réunions comme ça. On se rencontrait toujours en présentiel. Je pense bien que ça va rester ça, des réunions à distance pour des questions de frais et des questions de coûts. Est-ce que quelques avancements technologiques ou quelques petits trucs qui ont été développés pendant cette pandémie qui pourraient rester quand même?
Moi, je pense que là, je vais parler pas réunion, mais peut-être parler enseignement.
Oui, exact.
Je pense que les compétences, puis les habiletés, puis le matériel qu'on a acheté, va pouvoir être utilisé d'une multitude de façons. Par exemple, si on parle strictement là, enseignement à distance, vous faisiez référence aux réunions en ligne, aux cours en ligne, ben, Zoom ou Teams ou Meet, peu importe lequel était utilisé là par les jeunes. Eh bien, imaginez une situation où un jeune est un diagnostic malheureux de cancer ou une grave maladie, puis il est obligé de passer un mois loin de l'école. À partir d'aujourd'hui, les professeurs, les jeunes de sa classe ont les compétences que ça prend pour Ben, le garder minimalement engagé avec son groupe, qui reste en contact avec ses amis, qui reste en contact avec l'apprentissage. Donc, il y a des situations comme celle-là où ce qu'on a appris dans les deux dernières années à l'école, ben ça va devenir utile. Puis ça va devenir utile pour des jeunes qui, tu sais, pensez aux jeunes malades, là. Déjà qu'il est malade, qu'il faut qu'il se batte pour contre la maladie. Là, il perd ses amis, il prend du retard à l'école, ça veut dire qu'il va doubler, etc. Ben, whoops, là, tout d'un coup, maintenant, on a les outils que ça prend pour plus que ça se produise. Fait qu'il va y avoir des retombées positives à tout ça. Ça, c'est clair.
Si ça devait se reproduire, vous le disiez tantôt, là, les professeurs ont eu une formation rapide, les équipements ont été, puis les technologies ont été décidées très, très, très rapidement, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées pour, si ça se reproduit, que ça se fasse un petit peu mieux?
Clairement. On se racontera pas d'histoire, là, c'est pas avec une formation en ligne des enseignants, puis un conseiller pédagogique spécialiste en technologie éducative pour 150, 200, 300 enseignants qu'on réussit à préparer tout le monde puis à en faire des experts de ce contexte-là. Nos enseignants, là, ils ont à la base été formés pour agir dans une salle de classe. C'est un contexte qu'ils maîtrisent. Ils ont des habiletés à gérer le climat de la classe. Ils savent comment, je vais dire, rythmer les activités pour que le niveau d'attention soit optimal à tous les bons moments. Ils savent quand c'est le temps de prendre une pause. Ils maîtrisent tout le matériel qu'il y a dans leur salle de classe. C'est les livres autant que les ordinateurs, etc. C'est un contexte, la salle de classe, qu'ils connaissent bien. Ils ont de l'expérience. Ils ont été formés pour ça. L'enseignement à distance, c'est complètement différent. On peut pas enseigner à distance comme on enseigne en face à face. Puis ça, il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont appris à leur dépens durant les deux dernières années. En deux ans, ils n'ont pas pu développer autant de compétences. Donc, il va falloir continuer à le maintenir, ça, parce que ça risque de se reproduire. Puis, dans un monde idéal, dès maintenant, là, ça commence déjà, il y a déjà des enseignants qui ont intégré l'enseignement à distance puis l'enseignement en présentiel, puis là, ils mélangent les stratégies pour améliorer encore plus les situations d'apprentissage. On a des enseignants là, qui sont devenus vraiment, vraiment bons, les jeunes, sont à la maison, sont en train d'apprendre, puis ils s'en rendent même plus compte. Puis là, le lendemain matin, ils arrivent à l'école, puis c'est juste la continuité de ce qu'ils ont fait à la maison. Puis donc, on parle d'enseignement hybride. Je pense qu'on se dirige vers ça, là, mais nos enseignants, ils ont fait un gros bond en avant, point de vue compétences, matériel, etc. Puis je pense que ça va avoir le futur de l'enseignement, ça a un impact parce que ça ouvre des nouvelles portes pédagogiques à nos enseignants.
Tu sais, l'être humain est réfractaire à tout changement, surtout dans son milieu de travail. Là, tout le monde qui nous écoute actuellement, quand on présente des changements, aussi bien présentés qu'ils soient, pas tout le monde qui veut embarquer non plus là-dedans. Je présume que ça a été la même chose. Il y en a sûrement qui ont fait le strict minimum aussi, là.
Ah oui, il y en a qui ont fait... Puis c'est pas nouveau, là. Il y en a que dans les deux dernières années, on n'est pas tous obligés d'aimer le numérique, d'aimer les technologies. Puis un enseignant, avant, il y a deux ans, n'avait pas nécessairement à être très compétent sur le plan numérique pour être un excellent enseignant. Hein, il y a des enseignants, là, que moi je connais des enseignants qui ont enseigné à mes filles, leur passion c'était la musique ou leur passion c'était les arts. Puis ils utilisaient ce médium-là ou cet outil-là pour amener l'apprentissage, amener les jeunes à apprendre. Puis c'était parfait. C'est correct, puis ça va l'être encore dans le futur. Sauf que là, depuis deux ans, on a réalisé que les compétences numériques, elles sont vraiment utiles, vraiment nécessaires. Il y a des enseignants là, que dans les dernières deux années, ils ont rattrapé 10, 12, 15 ans de retard point de vue compétences numériques. Là.
Est-ce que ça vient donc signaler la fin officielle des acétates?
Je pense pas qu'il y avait plus aucune école qui avait des acétates.
Ah, okay, ouais. Je sais pas, on se demandait, mais est-ce que, bon, vous abordez la question sur un angle, disons, d'optimisme, c'est intéressant. Évidemment, je considère qu'on peut enseigner en ligne à bien des domaines, mais il reste que pour les jeunes enfants, c'est un défi qui est considérable. Est-ce que maintenant, le défi au niveau de quand on enseigne aux futurs enseignants à enseigner, est-ce qu'on va devoir incorporer davantage de volets numériques dans la pédagogie des cours à l'université? C'est-à-dire, est-ce qu'on va devoir davantage focusser sur un jour vous serez enseignant et ça va être important de savoir faire ça?
Le gouvernement, déjà, on avait déjà commencé, les deux derniers gouvernements avaient mis en place un plan d'action numérique. On s'est doté au Québec d'un cadre de référence de la compétence numérique qui est bon du préscolaire jusqu'à la fin de l'université. Ça inclut, puis c'est même les enseignants ont à développer cette compétence numérique qui se décline en 12 dimensions. Il y a déjà des gestes qui ont été faits. Chaque programme dans chaque université pose ses gestes à lui. Nous, ici à l'UQAC, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de techno, puis les futurs enseignants sont de plus en plus préparés à ça. Je pense à une collègue qui a utilisé des jeux vidéo l'automne dernier dans son cours en univers social pour travailler avec les futurs enseignants. Donc oui, les futurs enseignants sont de plus en plus sensibilisés à ça. Puis nous, on a été confrontés, les futurs enseignants qui sont dans nos programmes actuellement, ils ont été confrontés à la pandémie aussi. Fait qu'ils ont vécu l'apprentissage en ligne. Nécessairement, comme ils réfléchissaient, sont en train de se former à devenir des enseignants, bien, ils ont réfléchi à ce qu'ils vivaient comme étudiants d'une manière un petit peu différente. Puis, ils vont repartir avec un bagage de formation qui est déjà plus riche que les dernières cohortes, ça c'est clair.
En vue de la rentrée en présentiel lundi, est-ce qu'il y a une période d'adaptation quand on passe du numérique à distance au présentiel et vice-versa?
Moi, je pense que ça va être de la joie sur la cour d'école.
Ouais.
Je pense que les jeunes vont être contents de se rencontrer. Les jeunes ont besoin de contact physique. T'sais, le 100% à distance, c'était peut-être pas idéal pour plusieurs jeunes d'âge, je pense surtout aux jeunes d'âge primaire, là, qui ont besoin de ce contact-là, puis qui ont besoin d'être avec des jeunes de leur âge. C'est plus facile pour eux de confronter leur comment ils comprennent le monde avec leurs amis. C'est plus facile de parler avec du monde puis de travailler avec du monde de leur âge. Pour toutes sortes de raisons, je pense que ça va être très positif. Moi, j'anticipe que la transition pour les jeunes va être très, très facile, là. Ils vont être heureux de retourner à l'école. Évidemment, il y a peut-être quelques jeunes qui vont être stressés. Il y a des jeunes qui sont un peu plus anxieux face à la pandémie, face au virus, hein. Par exemple, un jeune, s'il y a des personnes malades dans sa famille ou des personnes qui sont immunodéprimées, ça se peut que ce jeune-là soit peut-être un petit peu plus anxieux face à la rentrée parce qu'il comprend que s'il ramène le microbe à la maison, ben ça pourrait nuire à sa mère ou ça pourrait nuire à son père. Mais la majorité, je pense qu'ils vont être contents de retourner à l'école.
Par texto, des auditeurs nous disent au moins ça va diminuer le temps d'écran par semaine aussi.
Ah ben oui!
Ouais. Là, vous tombez dans un de mes dadas, le temps d'écran, mais le problème, c'était pas tant que l'enseignement se faisait en ligne. C'est le cumul de plusieurs types de temps d'écran. Mm-hmm. Là, on avait les jeunes qui étaient à l'écran autant pour apprendre, qui est un temps d'écran qu'on pourrait dire positif. Mais là, ça s'ajoutait à du temps écran qui est plus récréatif. Puis c'est le total des deux qui était problématique. T'sais, on n'a pas ajusté le temps d'écran récréatif quand on a augmenté le temps d'écran éducatif. Puis ça, c'est une problématique. Si on était 100% à distance ou si une famille décidait que si un jeune devait être 100% à distance, c'est clair que le temps écran, il va falloir un peu gérer quelle partie est éducative versus quelle partie est récréative. Puis s'assurer qu'ils ne passent pas 50 heures par semaine devant l'écran.
Ah, mais remarquez qu'avec le nombre de temps écran pour l'école, ça serait presque même assurément obligé de réduire le temps récréatif à zéro.
Probablement.
Ouais. C'est pas évident à faire passer, ça.
Non, mais ça a été une des conditions. Là, si ça s'était prolongé, je pense que ça serait peut-être devenu, pas le ramener à zéro, mais ça serait peut-être devenu nécessaire. Puis je pense que l'école se serait ajustée aussi. Les enseignants, ils apprenaient encore qu'est-ce qui est nécessaire de faire devant un écran en distanciel sur Zoom ou sur Teams, par exemple. Puis qu'est-ce que le jeune est capable de faire par lui-même. Ouais. Donc, l'école aussi se serait ajustée. Là. Rappelez-vous, quand les iPads sont arrivés à l'école, ça a pris deux ou trois bonnes années aux enseignants avant. OK, ça c'est quelque chose d'avant de décider. Ça, on va le faire sur l'iPad. Ça, on va le faire sans l'iPad. Au début, tous les enseignants essayaient, puis oups, ça, c'est trop, ça, c'est passé. Fait que pour l'enseignement sur Zoom puis sur Teams, il se serait passé la même chose. Là. Si on donnait encore un peu de temps aux enseignants, il en serait venu à déterminer, OK, ça, c'est un bon usage de Zoom. Ça, je suis mieux de le faire autrement. Puis le temps écran de l'école aurait diminué, je pense.
Monsieur Giroux, merci beaucoup.
Merci.
Ça me fait plaisir. Bye.
Au revoir. À la prochaine. Patrick Giroux, professeur au département des sciences d'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi pour parler de la rentrée qui va se transporter d'un monde virtuel à distance à un mode présentiel à compter de lundi. C'est intéressant. Puis il y a certaines applications qui pourront peut-être rester. Puis ce que j'ai particulièrement aimé entendre, c'est que pendant ces deux ans-là d'apprentissage, pour plusieurs, ça aura peut-être débloqué certaines opportunités numériques qu'ils n'osaient pas aborder auparavant. Tu sais, ça date pas mal de Jean Charest, mais les histoires des tableaux blancs interactifs, on a vu puis on a entendu des reportages disant qu'ils étaient utilisés à très, très mince utilisation, très basse utilisation par les professeurs, parce que soit ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas eu la formation nécessaire, ou ils se disaient, je suis à 2-3 ans de ma retraite, tu voudrais que je vais apprendre ça? Tu sais, pourtant, il y avait plein de potentiel là-dedans. Ben maintenant, peut-être que ça aura ouvert les horizons à plusieurs.